France Musique. Musicopolis. Stravinsky, Paris, 1913. Le 29 mai 1913, Paris, 15 avenue Montaigne. Les ballets russes de Serge Diaghilev donnent ce soir trois œuvres. La deuxième est une création. La soirée de la création du Sacre du Printemps est restée dans les annales comme l'un des plus grands scandales de l'histoire de la musique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas tellement la musique qui a suscité les foudres d'une bonne moitié de la salle ce soir-là, mais la danse. La chorégraphie de Nijinsky, avec ses pieds en danse, ses piétinements, ses têtes penchées, ses robes droites et ses bottes de tissu lacées, a choqué bien plus que les violences rythmiques de Stravinsky. Il est vrai qu'en termes de ballet, les spectateurs étaient bien davantage accoutumés à des groupes en tutu, des danseuses sur pointe et de gracieux mouvements de bras. Pour comprendre le scandale qui a eu lieu le 29 mai 1913 dans la toute nouvelle salle du Théâtre des Champs-Élysées, dans l'un des quartiers les plus chics de Paris, il faut essayer de se faire une idée de ce qu'était la vie culturelle de cette époque. Si la capitale compte alors 2588 journaux, dont 80 quotidiens politiques et d'information, elle a aussi énormément de spectacles et dans tous les genres. Opéra, opéra comique, concerts de plusieurs sociétés symphoniques, opérettes, vaudevilles, musicals, revues en tout genre, cafés chantants, et bien sûr le théâtre parlé, depuis la Comédie française jusqu'au boulevard et au théâtre satirique. Je vous propose de faire le tour de Paris, justement la semaine de la création du Sacre du Printemps.
Alexandrine, Alexandrine, où je suis né dans le péché, l'air brillant où j'ai respiré l'affreux parfum de la luxure, voilà. Alexandrie.
L'Opéra de Paris est l'institution la plus ancienne de la capitale. En 1913, elle est installée au Palais Garnier, place de l'Opéra, qui a été inaugurée 38 ans auparavant, l'année de la création de la Carmen de Bizet. Si le bâtiment est encore très récent, l'entreprise elle-même remonte à Louis XIV et son Académie royale de musique. Depuis Lully, les directeurs se sont succédés, peu ont fait fortune, beaucoup se sont épuisés à la tâche, plusieurs s'y sont ruinés et quelques-uns même y ont perdu la vie. Cette dure réalité a eu des répercussions sur les programmes. Si on veut satisfaire les abonnés, il faut leur donner ce qu'ils aiment. Et ce qu'ils aiment, c'est souvent ce qu'ils connaissent déjà. On ne va donc pas leur proposer de nouveautés, sinon celles de compositeurs déjà passés dans le répertoire courant. C'est ainsi que la semaine du 29 mai 1913, trois opéras sont au programme. Thaïs de Massenet, créé en 1894, c'est l'ouvrage le plus récent. Faust de Gounod, créé en 1859. Et Tristan et Isolde de Wagner, représenté en Allemagne en 1865, à Paris en 1899, mais entré au répertoire de l'opéra seulement en décembre 1911. L'Opéra de Paris, ou Académie de musique, ne fait confiance qu'aux valeurs sûres. Si la vénérable institution a attendu plus de 50 ans pour représenter Tristan et Isolde de Wagner, c'est qu'elle voulait être sûre que l'ouvrage serait accepté par ses abonnés et qu'il attirerait du monde. Mais aussi, l'Académie n'a pas eu de chance. L'installation au Palais Garnier a généré des frais extrêmement élevés. Le directeur a dû faire des choix. Pedro Gaillard, un ancien baryton, a tenu le poste jusqu'en 1907. Il a choisi de ne faire jouer que les œuvres qui avaient déjà eu du succès ailleurs et il a sacrifié délibérément la danse. Le maître de ballet, Joseph Hansen, malgré sa bonne volonté, n'a pas pu faire grand-chose. Et puis, c'est un chorégraphe assez pâle qui a tout juste réussi à mettre en lumière la danseuse étoile qu'il avait engagée, la délicieuse milanaise Carlotta Zambelli. Thank you. En 1908, l'opéra donne une nouvelle chorégraphie du ballet Namouna d'Édouard Lalot, avec beaucoup plus de succès que lors de sa création 25 ans plus tôt. Cette année-là, la direction de l'Opéra de Paris change. Elle est confiée en collaboration à un gestionnaire et un musicien, André Messager, compositeur et précédemment chef d'orchestre à l'Opéra Comique. Messager entend bien moderniser la maison et notamment il se met d'accord avec Serge Diaghilev pour faire venir la troupe de l'Opéra de Saint-Pétersbourg. Diaghilev est impresario et il a déjà organisé des concerts russes à Paris la saison précédente. Le public parisien attend avec impatience de retrouver Fédor Chaliapine dans le rôle de Boris Godounov.
И голова кружится, и мальчики, да, мальчики кровавые в глаза. Он там. Что это? Там, в углу. Колышется, растет, близится. Прошить историю. Чух-чух! Не я твой великодей. Чух-чух, дитя! Не я! Нет, не я! Воля народа! Чух!
À l'Opéra de Paris, les ballets sont partie intégrante des spectacles d'opéra. Parfois, ils viennent en complément si la soirée est trop courte. Lorsque la danseuse russe Mathilde Kchesinska est engagée pour l'été 1908, elle est très déçue qu'il n'y ait pas des soirées entièrement consacrées à la danse, comme c'est le cas à Saint-Pétersbourg. C'est d'ailleurs pour cette raison que la première saison des ballets russes en 1909 n'est pas hébergée à l'Opéra, mais au Théâtre du Châtelet. Pour les Parisiens, cette saison russe est une révélation. Tous les régals, la chorégraphie, les danseurs, les costumes, les décors. Même si le ballet du Palais Garnier est en voie de régénération, il est encore à 1000 lieues de cette nouvelle forme d'art total. Mais patience. Poursuivons notre tour des théâtres de la capitale. Deuxième arrêt, l'Opéra Comique.
Thank you.
L'opéra comique, depuis qu'il s'est installé dans sa nouvelle salle Favart en 1898, a vu défiler les créations grâce au dynamisme du directeur Albert Carré. C'est lui qui a fait représenter Louise de Charpentier en 1900, puis Péléas et Mélisande de Debussy en 1902, La Tosca de Puccini en 1903, et plus tard Ariane et Barbe Bleue de Ducas, L'heure espagnole de Ravel. Parmi les ouvrages au programme, la semaine du 29 mai 1913, Les Contes d'Hoffmann, Werther, Cavalleria Rusticana, Le Barbier de Séville, Carmen, Louise et La Tosca. La programmation du théâtre de l'Opéra Comique en 1913 est variée, avec quelques œuvres du répertoire mêlées à des nouveautés des 15 dernières années. Si on cherche quelques ouvrages un peu plus légers, on en trouve aussi à Paris. La semaine du 29 mai, on peut applaudir au Trianon lyrique La cigale et la fourmi, La dame blanche et Si j'étais roi, en alternance avec Rigoletto, qui n'est pas vraiment léger. Tandis qu'à la Gaîté lyrique, on peut entendre L'attaque du moulin, Panurge, Carmosine, Le Trouvert, pour faire pendant sans doute à Rigoletto, et La fille de Madame Angot.
Voyons, monsieur, raisonnons politique.
Parlez politique avec vous.
Et pourquoi pas?
Mais entre nous, c'est un sujet peu poétique.
Je veux pourtant savoir pourquoi, lorsque vous êtes devant moi, l'ancien régime seul vous tente. Parlez, vous si jeune et si présente.
Oh, ne me dites pas cela, si le nouveau régime est là, il est charmant car il n'opprime que par l'éclat de ses beaux yeux, en le voyant si gracieux, si doux, si beau, si généreux. Si la nouvelle France est là.
je la trouve sublime, et lorsque je l'admire en vous, je rêve le sort le plus doux, le paradis s'ouvre pour nous. Voyez, je tombe à vos genoux.
Si pour certains Parisiens, les programmes de la Gaîté Lyrique ne sont pas encore suffisamment légers, il y a encore moult spectacles dans la capitale. Le cirque Medrano propose des attractions nouvelles en matinée, les jeudis, dimanches et fêtes. Boulevard de Clichy se tient le Gaumont Palace, qui propose un nouveau film, Le départ dans la nuit. Le Luna Park est ouvert par tous les temps, de 1h à minuit, avec des, je cite, « attractions sensationnelles ». On peut choisir aussi dans un grand nombre de revues, aux titres tous plus alléchants les uns que les autres. V'là le Rafu, au Concert Mayol. On va une fois rire, célèbre revue belge, SIC, à la Scala. En avant-mars, grande revue féerie aux Folies Bergères. Vicieuse va au Moulin Rouge, ah oui, tout un programme. Et encore, non, pas les mains, aux Ambassadeurs avec Ferrer, Carmel et Dranem.
La critique est facile et un tant d'imbéciles trouvent très intelligent de se fiche des gens. Pour me payer leur fiole à peu de frais, je leur donnerai la parole et je leur dirai: essayez donc un peu pour voir, ça paraît bête comme chou. À vous la main, tenez le crachoir puisque c'est votre goût. Discutez les nouveaux impôts et vous verrez bientôt tout ce qui vous va tomber sur le coin de la gueule en fait coup de poing. Vous croyez que pour faire de la politique, il suffit de sortir de l'école laïque. Essayez donc un peu pour voir, ça paraît bête comme chou. Pas un serait fichu au pouvoir de savoir tenir le coup. Au nom des grands principes, on vient juger un type qui s'était devant la loi marié trois fois. Et les gens incapables d'en faire autant disent l'air inexorable, c'est dégoûtant. Non mais essayez donc un peu pour voir, ça paraît bête comme chou. Mais avoir trois femmes à pourvoir, c'est pas facile du tout. D'abord au prix de la loyaux, ça doit revenir cher. Et puis pour le reste, il faut être reconstruit en fer. Quand l'une est satisfaite, l'autre en demande. Et la troisième vient passer la commande. Essayez donc un peu pour voir, ça paraît bête comme chou. Au bout de peu de temps, on doit avoir les jambes en caoutchouc.
Stravinsky a-t-il eu le loisir de se plonger dans la vie parisienne des spectacles avant la première du Sacre du Printemps ? Il n'a sans doute pas l'esprit très libre à ce moment-là. Et puis, il n'a pas eu beaucoup de temps pour ça. Il a passé le mois de mars et le mois d'avril à Clarins, en Suisse, pour terminer l'orchestration du Sacre et pour travailler sur une nouvelle version de la Kovanchina de Moussorgski, qui doit être donnée à Paris en juin par Diaghilev. C'était tellement de travail qu'Igor a demandé un coup de main à Maurice Ravel, qui est venu s'installer dans l'hôtel d'en face pour partager la tâche.
Thank you.
le chœur final de la Kovanchina de Moussorgski avec les chœurs et orchestres du Kirov, dirigé par Valérie Gergiev. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Pierre Monteil pour le mixage, Françoise Monteil, Philippe Debenoux pour les recherches et le site, et Béatrice Trichet pour la réalisation.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.